Chapitre 11. Valentine avait passé une nuit tragique. Pourtant, la soirée avait été presque calme. Lorsqu'elle se retira dans sa chambre, elle éprouva d'abord une détente assez douce. Il lui semblait qu'elle se retrouvait, que ses agitations avaient été un cauchemar à l'état de veille et qu'elle s'était étrangement exagéré la situation. Elle n'avait pas sommeil, elle prit un livre dans sa petite bibliothèque. C'était François le Champy. Il y avait déjà quelque temps qu'elle ne l'avait pas parcouru. Elle prit plaisir à ses vies naïves, perdues au fond des campagnes. Elle lut d'un trait, presque avidement, jusqu'au passage où Madeleine traverse le pont branlant en portant le Champy dans ses bras. Soudain, elle eut au cœur ce petit élancement qui nous rappelle à nos peines. Elle déposa le livre, elle regarda trois moucherons qui voltaient autour de l'ampoule électrique, et un grand malaise, sourd encore, se répandait du diaphragme à tout son être. Elle revit avec une honnêteté douloureuse la silhouette de Philippe. Elle entendit les quatre vers qu'il avait murmurés devant la fenêtre. Elle répéta ces vers sans pouvoir retrouver exactement les deux derniers et s'obstina pendant quelques minutes à les reconstituer. Ce qui était intolérable, c'est qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer pourquoi elle avait tant de peine. Elle n'avait pas l'habitude d'analyser ses sensations et peut-être n'y était-elle pas très apte. Elle souffrait d'une sorte d'effroi mystique. Et cet effroi avait brusquement grandi et continuait à croître. Elle voyait, malgré elle, quelque chose de surnaturel dans la scène de l'après-midi. Tout cela tourbillonnait sans qu'elle entrevît un dénouement. Emprisonnée dans son intuition, elle n'avait aucune idée claire et d'autant plus était-elle impressionnée. À plusieurs reprises, elle essaya de lire. Le livre lui retombait bientôt des mains. La rêverie noire recommençait sans issue. Cela dura pendant plusieurs heures. Elle était recrue de fatigue, mais redoutait de se mettre au lit. Vers le milieu de la nuit, elle s'assit dans un fauteuil devant la fenêtre afin de respirer l'air frais. Elle fut saisie d'une torpeur et s'endormit. Quand elle s'éveilla, l'aube était proche. Deux grosses étoiles se couchaient sur l'océan. Valentine grelottait. Elle avait de la fièvre, ses tempes étaient rouges et ses mains glaciales. Elle regarda les choses avec étonnement. Une brume emplissait son cerveau, tout s'exagérait en elle et autour d'elle. Elle prit machinalement un manteau. Elle traversa le jardin sauvage, elle sortit par une poterne et se trouva sur la route, au moment où une lumière mélancolique se mêlait à la lueur de la lune. Il est certain qu'elle n'avait qu'une conscience restreinte de ses actes. La fièvre augmentait. Son cœur et son pouls battaient désespérément. Elle marcha quelque temps parmi les ajoncs et les herbages. L'aurore agrandissait les nuages et les remplissait de sa vie fugitive. Puis une fournaise rouge monta parmi les pommiers. Mademoiselle de Versailles continuait à marcher. Tout ensemble, la fièvre la lassait et la soutenait. À plusieurs reprises, elle s'arrêta, tournait dans la direction du château, mais une volonté indéfinissable la remettait en route. Cela dura plusieurs heures. Quand elle atteignit Avranches, le soleil était déjà haut. Elle se dirigea vers l'église, y entra et pria obscurément. Ensuite, dans une rue étroite, elle s'arrêta devant une vieille maison granitique au toit de Bordeaux. Il y avait un marteau à la porte. Elle frappa. Une femme, déjà vieille, au visage triangulaire et aux yeux roux, vint ouvrir et poussa un cri. « Oh, c'est vous, mon cher petit !»« Oui, c'est moi, Madeleine. » Elles demeuraient là, surprises l'une et l'autre. Puis l'hôtesse introduisit la jeune fille dans un petit salon, ou plutôt un parloir, meublé de chaises basses à très longs dossiers, pareilles à des chaises d'église, d'une vieille table de chêne, d'un coffre à sculpture qui ressemblait pas mal à un sarcophage, et d'une large commode à ferrure de cuivre. Mademoiselle Madeleine Faubert avait été la gouvernante et la première institutrice de Valentine. Cette vieille fille décelait aussi peu de défauts que le comportait la structure humaine. Sincèrement modeste, mais point humble, constante et scrupuleuse, résignée et gaie, économe et généreuse, parfois opiniâtre, un peu trop secrète, presque irascible vis-à-vis des orgueilleux ou des égoïstes, son cœur était un inépuisable réservoir de compassion. Elle aimait follement Valentine, d'une tendresse complexe où se concentraient ses vœux inassouvis, l'instinct maternel, je ne sais quel amour d'une pureté infinie, et qui pourtant reflétait les passions dont la pauvreté, le hasard, les circonstances l'avaient privée. Quoique innocente du cœur comme un petit enfant, elle avait de la pénétration et de l'expérience. Elle comprenait des sentiments étrangers à sa propre personne. C'était le seul être à qui Valentine osait tout dire. Madeleine observait la jeune fille sans qu'il y parût. Elle vit ses yeux bleuis, ses pommettes ardentes et l'égarement répandu sur toute sa personne. Elle pressait les mains de la visiteuse avec des doigts qui étaient aussi petits et qui avaient été aussi délicats que les doigts de Valentine, mais que les rhumatismes commençaient à enfler un peu aux jointures. « Mais d'où venez-vous, marquise chérie? On dirait bien que vous avez de la fièvre. » Elle tâtait le pouls de la jeune fille. Elle en constatait la course précipitée. « Oh oui, je crois que j'ai la fièvre et je suis si fatiguée, Madeleine. » Madeleine l'avait assise sur une de ses chaises d'église, au dossier roide et dur. Elle sentait qu'il ne fallait plus l'interroger. Elle attendait, patiente, avec ce doux sang-froid des femmes qui savent entendre et consoler. « Oh, Madeleine !» soupira l'adolescente. « Pourquoi suis-je si malheureuse ? Et ce n'est rien. » On peut bien être malheureux quand il y a tant de douleurs en France. Mais pas ainsi, oh non, pas ainsi. Elle avait les yeux pleins de larmes. Je ne sais pas du tout si vous pouvez comprendre. Je ne comprends pas moi-même. Peut-être suis-je folle. J'ai fui le château par frayeur. Par frayeur ? S'exclama Madeleine, saisie de cette combativité qui lui venait pour les autres. Personne ne s'est permis. Oh non, personne, ma chérie. Nul n'a de tort envers moi, fût-ce par une parole. Madeleine scrutait profondément le visage pâle. La jeune fille parla plus bas. Peut-être as-tu deviné, Madeleine, ce que j'ai rêvé pendant son absence. Je l'ai deviné, petite marquise. Mais c'était bien, c'est ce que je souhaitais. Je crois bien que je l'aimais déjà avant son départ, mais pas complètement. On eût dit que cette absence était nécessaire. Et je croyais que lui-même... Mais vous pouvez en être sûr. Quand ils sont revenus... L'institutrice eut un sursaut. L'autre ne revenait pas. Justement, mais comment savoir? Il était impossible de faire entre eux la plus faible différence. Tu le sais bien. C'est vrai, la ressemblance est frappante. Elle est effrayante. J'en ai été tout de suite saisi, du saisissement de ces réveils en plein rêve qui font si mal au cœur. Tu peux pas savoir, Madeleine. Je l'attendais avec tant de ferveur. J'étais si impatiente et si heureuse. Et tout à coup, c'est lui et ce n'est plus lui. Un autre est là, qui est le même. « Oh oui, » fit pensivement la vieille fille. « Je n'y avais pas pensé. Pas pensé ainsi, oui, oh, cela a dû être impressionnant. On eût dit qu'un brouillard se dissipait dans l'esprit de la jeune fille. Tant de sensations ténébreuses, tant d'intuitions, jusqu'alors indéfinissables, semblaient éclairées par la fièvre. Mais ce n'était pas du tout comme une ressemblance connue. C'était une révélation et foudroyante. La destruction d'une personnalité. J'ai passé plusieurs jours dans une véritable hébétude. Tout mourait en moi, du moins je le croyais. Puis il y a eu un retour. Mon rêve voulait revivre. Il a revécu, alors j'ai fait un immense effort pour faire abstraction de l'autre, de Philippe, pour isoler Pierre. Je croyais y être parvenu, malgré une angoisse persistante, un pressentiment noir. Il y a eu un moment très beau au bord de la mer. Parmi les pierres sauvages, nous avions un souvenir commun. Alors là, j'ai cru que la menace était vaincue. Nos yeux se sont retrouvés. Mais quand Philippe nous a rejoints, comment te dire, c'était tellement le même regard, et j'en suis affreusement sûr, le même amour. Et le même amour, répéta pensivement Madeleine. Elle comprenait. Un peu du trouble de Valentine se répandait dans son âme. « Mon Dieu, ce n'est rien encore !» soupira la jeune fille. « Je pensais que tôt ou tard, un de ces deux amours s'effacerait, et cela seul suffirait pour créer entre eux une différence profonde. Mais dans mon esprit exalté, est-ce même dans mon esprit, n'est-ce pas dans tout mon être, une nouvelle misère naissait. Jusqu'alors, je faisais au moins entre Pierre et Philippe une différence dans le passé. L'un avait vécu auprès de moi avant la guerre. Nos souvenirs se mêlèrent. Oh, je le crois toujours, et comment pourrait-il en être autrement? Mais un sentiment plus fort que toute conviction raisonnée grandissait. C'est que, par je ne sais quel sortilège, les souvenirs de Philippe étaient les mêmes que ceux de Pierre. J'avais beau me révolter, ce sentiment ne cessait de grandir. Il me semblait constamment recevoir des preuves, par un mot, par un geste, par un des mille actes insignifiants de la vie. N'étais-je folle? Je me le demandais constamment. Hier, nous sommes allés tous trois avec Madame de Givreuse à la ferme de Jean Berleux. Tu sais, cette ferme du vieux temps, tout au bout du village abandonné. Nous sommes restés seuls, Philippe et moi, pendant que Madame de Givreuse et Pierre discutaient d'une affaire de réparation avec le fermier. J'avais gardé un souvenir très doux d'une heure passée dans la chambre où nous nous trouvions. Oh, c'était presque le même temps. Et tout à coup, comme l'autre fois, un oiseau s'est mis à chanter et Philippe a récité quatre vers. Les mêmes que Pierre avait récités devant la même fenêtre. Oh, j'étais saisi d'une véritable épouvante qui s'est aggravée la nuit. Il y eut un silence. Madeleine subissait de plus en plus l'atmosphère de la jeune fille. « Est-il possible, chuchota celle-ci avec détresse, que les souvenirs d'un homme se communiquent à un autre homme ?»« La télépathie, suggéra Madeleine. D'ailleurs, cher petit enfant, pourquoi Zévère ne serait-il pas venu naturellement à la mémoire de Philippe ?»« Justement devant cette fenêtre, et dans des circonstances si semblables, aux circonstances qui avaient amené Pierre à les réciter, mais ce serait prodigieux. Voulez-vous me redire ces vers? Voici, je ne me rappelle pas exactement le troisième et le quatrième. La branche au soleil se dort et penche pour l'abriter ses bourgeons qui vont éclore vers l'oiseau qui va chanter. Il y a bien peu de gens qui connaissent ces vers-là. C'est vrai, mais toutefois remarque qu'il y a question de l'oiseau qui va chanter. Or, les deux fois qu'on les a récités devant toi, un oiseau chantait. Deux esprits qui se ressemblent autant que ceux de Pierre et de Philippe ont pu subir la même évocation. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas surnaturel. Oh, si vous aviez raison. Mais j'ai raison, marquisette. Il faut me croire et vous reposer. Mais que doit-on croire là-bas? Mon Dieu, gémit la jeune fille. Oh, il est intolérable que j'aie donné de l'inquiétude à Madame de Givreuse. Que faire? Eh bien, tout simplement, envoyons une dépêche. Comme je ne puis vous laisser seule, Madame de Givreuse viendra. Il me semble que je ne saurais lui faire comprendre. Oh, c'est si difficile. La moindre allusion peut jeter le trouble dans toutes les âmes. Mais je ne songe pas à dire la simple vérité, ni à la faire deviner. La corde d'une automobile sonna dans la petite rue. Les deux femmes regardèrent la fenêtre. Une limousine s'arrêta. « Oh, c'est Pierre !» exclama Valentine avec effroi. « Où Philippe ?»« Je vais le recevoir. » Madeleine ouvrit vivement une porte et conduisit Valentine dans une minuscule salle à manger. Deux coups de marteau retentissaient dans le corridor. Le visage du visiteur apparaissait presque rigide, mais ses yeux dénonçaient d'une sombre inquiétude. Mademoiselle Faubert l'introduisit dans le petit parloir. Il regardait autour de lui, fébrilement. « Pardon, dit-il, n'avez-vous pas vu Mademoiselle de Varsen, elle... « Elle est ici, répondit tranquillement Madeleine. Un sourire nerveux entr'ouvrit les lèvres du jeune homme. Oh, « Dieu soit béni, soupira-t-il. Nous avons tout pu à craindre. Cependant, j'ai eu le pressentiment qu'elle devait être réfugiée auprès de sa plus sûre amie. Les derniers mots firent préjuger à Madeleine qu'elle était en présence de Pierre. « Oh, je ne demande pas à voir Mademoiselle de Varsène, » reprit-il timide. « Non, elle est très fatiguée. Il n'y a pas d'endroit au monde où elle peut être mieux en sûreté qu'ici. Oh, je vais télégraphier à ma mère. » Une courte pause. Tous deux s'épiaient avec une curiosité ardente et anxieuse. « Il m'est impossible de la laisser seule, » fit enfin Madeleine à voix basse. « Sinon, je serais allé voir Madame de Givreuse. Ma mère peut-elle venir ?»« Oh, si elle le peut, oui, je crois que ce serait très utile. » Pierre hésita, puis « Mademoiselle de Varenne n'est pas malade. »« Non. » Il comprit qu'il ne pouvait insister. Il murmura. « Quand préférez-vous recevoir la visite de ma mère ?»« Le plus tôt possible. » « Alors, je crois que vous la verrez ce matin même. » Madeleine avait attentivement scruté la physionomie de Pierre. Elle y avait vu passer toutes les nuances de l'émotion, mais aucun étonnement. « Mais il sait donc, » se demanda-t-elle, « ou du moins il devine. » Il parut vouloir encore demander quelque chose, mais il n'osa point et se retira. Madeleine demeurait songeuse. Elle comprenait maintenant les soupçons indéfinissables de Valentine. 10 heures venaient de sonner à l'église de Saint-Saturnin lorsque Madame Givaud arriva chez Mademoiselle Faubert. La visiteuse trahissait plus vivement son agitation que Pierre. Son visage avait cet aspect dur que l'émotion donne au visage autoritaire. Elle ressentait un peu de rancune contre Valentine. Elle ne concevait pas que la jeune fille fût partie si mystérieusement, mais cette rancune se fondait dans une tendresse chagrine. Peut-être aussi était-elle vaguement jalouse de Mademoiselle Faubert. Elle estimait l'institutrice. Elle ne lui avait jamais témoigné de cordialité réelle. « Excusez-moi, madame, » fit Madeleine, « il n'était pas possible de laisser Mademoiselle de Versailles seule. »« Oh, je l'entends bien ainsi, » répondit froidement la visiteuse. « Nous avons été très inquiets. » Madeleine crut sentir un reproche dans l'intonation. « Mais je l'ai envoyé un télégramme lorsque Monsieur de Givreuse est arrivé. » La comtesse eut un geste vague, puis avec colère. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? C'est tellement à l'encontre de sa nature. Les circonstances peuvent être plus fortes que le caractère. Mais quelles circonstances? Exclama madame de Givreuse avec indignation. Mais que pouvait-il arriver à Valentine chez moi? Je ne suppose pas que personne lui ait manqué de respect. Oh, madame, c'est impossible. Mademoiselle de Marsay n'a reçu de vous-même et de tout le monde que des témoignages d'affection. Alors quoi, elle n'est pas folle? Non, elle est seulement très troublée. Mais encore a-t-elle des raisons? Sans doute, madame. Mais ne pouvait-elle me les confier? Ne sait-elle pas que je l'aime comme si elle était ma fille? Elle le sait, elle vous aime comme une mère. Eh bien, madame de Givreuse était généreuse, dévouée et tyrannique. Elle avait peu de pénétration. Cependant, elle pensait bien qu'il s'agissait d'une crise sentimentale. Elle s'attendait depuis longtemps à ce que Pierre et Valentine s'aimassent. Elle le désirait. Hélas, répondit Madeleine, les personnes qui nous aiment le mieux sont parfois celles à qui nous ne pouvons pas faire certaines confidences. Madame de Givreuse haussa les épaules. Oh, soyez honnête, mademoiselle. Pierre a-t-il dit quelque chose à Valentine? Non pas d'offensant, il en est incapable, mais qui ait pu l'effaroucher. Non, je ne le crois pas. Donc elle a obéi à un sentiment tout intime, est-ce cela? Oui, c'est cela. Vous connaissez ce sentiment? Madeleine ne répondit pas. Mais voyons, reprit la comtesse avec véhémence, il faut pourtant que je sache. Je désire ardemment le bonheur de Valentine. J'ai bien le droit de savoir pourquoi elle s'éloigne de nous. Peut-être ne sait-elle pas très bien elle-même, et elle est si scrupuleuse. Ah, je vous entends, il s'agit de Pierre. Mais en quel sens? Craint-elle d'aimer? Craint-elle de l'être? L'un et l'autre, sans doute. Mais je ne vois pas que ce soit une raison pour nous fuir. Et pourtant, si elle désire échapper à toute influence, être libre. Mais en quoi la contraignons-nous? Oh non, madame, ce n'est pas ce que je veux dire. Je parle de l'influence qu'exerce l'affection même. Des scrupules que peut avoir une jeune fille. Que savons-nous si Valentine ne redoute pas de vous contrarier? Madame de Givreuse eut un sourire. Me contrarier, moi? Oh, je ne veux que son bonheur. Si elle et Pierre s'aimaient, j'en serais ravi. Et si elle n'aime pas Pierre, ce n'est certes pas moi qui lui en voudrais. Elle est aussi libre que le vent sur la mer. Oh, elle n'en doute sûrement pas. En somme, reprit la comtesse un peu rassérénée, aucun événement n'a décidé Valentine. Non, il n'y a que des événements intérieurs, si j'ose ainsi dire. Elle veut faire son examen de conscience, c'est bien, oui. Mais cela ne doit pas l'empêcher de me voir, je suppose. Madame de Givreuse avait élevé la voix. La porte intérieure s'ouvrit et Valentine se montra le visage en larmes. Elle alla silencieusement s'agenouiller devant la comtesse. Sa grande chevelure était à moitié défaite. La fatigue, l'émotion, l'insomnie avaient meurtri ses paupières et ses jeunes yeux en paraissaient plus charmants. Attendrie, madame de Givreuse attira la jeune fille contre son cœur. Chapitre 12. La vie nouvelle de Philippe était mélancolique, mais pas autant qu'il l'avait craint. Des énergies montaient en lui, du fond des races, et lui faisaient prendre goût à sa tâche. Il travailla rudement à organiser l'atelier qu'on lui avait confié. Il aimait naturellement la mécanique. Il développa des qualités assouplies, et son imagination se décevela ingénieuse. Savard avait fabriqué un état civil qui sauvegardait les démarches du jeune homme. qui se nommait maintenant Philippe Frémeuse. On avait placé le lieu de sa naissance dans les États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Les papiers de Philippe étaient authentiques. Ils avaient été laissés à Savard par un naufragé, mort subitement au sanatorium, et dont le fils unique avait péri en mer. Le père n'avait pas eu le temps de déclarer la mort de son fils et il n'avait point de famille. Cette supercherie était indispensable et inévitable. Aucune autorité administrative ne pouvait accepter la double personnalité de Pierre de Givreuse, ni admettre qu'un homme vécût sans que des papiers et des timbres lui assurassent une identité. Au demeurant, cette fiction légale ne lésait à aucun être ni aucune collectivité. Le neurologue comptait la parfaire plus tard en adoptant Philippe. À la mairie d'Ennuyères, dont dépendait le château de Givreuse, on ne s'était heurté à aucun soupçon. Philippe Frémeuse était régulièrement admis parmi les habitants de la commune. Tout cela, sans la consacrer, préparait une renonciation. Le destin des Givreuses se partageait. Celui qui restait au château accroissait un privilège que la forme subtile des circonstances pouvait rendre définitif. L'autre en souffrait, mais sans amertume. Même un charme sauvage se mêlait à son épreuve. Il luttait âprement pour transformer son amour en souvenir, et cette lutte tendait à établir une différence, sinon de tempérament, au moins de caractère, entre lui et Pierre. Elle multipliait son activité. Dans l'usine que Rougetaire et ses associés avaient organisée près de Carole, c'est Philippe qui apportait le plus de vigilance et qui s'efforçait de perfectionner les appareils. Il avait réussi à transformer un moteur. Cette petite victoire sur la matière l'aidait à s'adapter en sort. Ainsi, tandis que Pierre s'abandonnait à des émotions délicieuses, mais passive, relevant en quelque sorte de la vie d'espèce, Philippe accentuait la vie personnelle et en développait les éléments originaux. Dans l'état de particulier de plasticité où il se trouvait encore, qui offrait des analogies avec l'enfance et la prime adolescence, cette différenciation eut une certaine envergure. Il se trouva que l'esprit d'invention, la volonté, l'aptitude à la lutte progressèrent chez Philippe. C'était comme une récompense de son sacrifice. Elle l'encouragea et le remplit de confiance dans l'avenir. Son travail devint une passion. Il s'acharnait à produire des appareils sans défaut, des moteurs solides et souples qui défiaient la panne. Et il devint lui-même un aviateur si hardi et si habile qu'il eut quelque temps envie de s'engager parmi les pilotes militaires. Mais il conçut qu'il rendait plus de service à la fabrique qu'il en rendrait sur le front. Tenté cependant par la vie périlleuse à plusieurs reprises, il partit d'un aérodrome de l'Est où il assistait aux essais des appareils Rougetaire et il allait subrepticement jeter des bombes de son invention sur des gares, des trains, des dépôts de munitions allemands. Ses exploits satisfaisaient son besoin d'aventure et sa haine de l'ennemi. Un soir, qu'il s'en revenait d'une de ses expéditions, un projectile atteignit son moteur. C'était à la fin du crépuscule. La nuit s'avançait très noire, vêtue de pesantes nuées. Aucune étoile. Des raies électriques montaient de la terre et tournaient dans le ciel. Le moteur fonctionnait encore, mais Philippe se rendait compte que cela ne durerait guère. Des canons tournaient et quelques avions allemands rôdaient dans l'ombre. Ah, n'est-ce pas ma dernière heure? Se demanda Philippe. Il aimait la vie. Sur cette terre noire qui se perdait dans les ténèbres, des années de force et de courage lui avaient été promises. Il songeait à l'autre, à sa mère, à Valentine, avec un immense attendrissement. Il éprouvait aussi un regret étrange de mourir sans connaître le secret de son dédoublement. Soudain, il se trouva dans une brume, ou plutôt dans un nuage. Les raies cessaient de l'atteindre. Pendant 10 minutes encore, le moteur fonctionna, puis il s'arrêta. Il fallut descendre au hasard. Philippe fit décrire à son appareil une large spirale, et, sans presque savoir comment, il se trouva dans une clairière très nue au milieu d'une forêt. Tout était paisible. C'était à peine si l'on discernait les détonations d'une artillerie lointaine. Il attendit un instant, le revolver au poing, puis, à la lueur vive de sa lanterne, il se mit à examiner le moteur. L'avarie en somme était légère, quoique mal située. Il fit rapidement une réparation de fortune. Et il s'apprêtait à repartir lorsqu'il entendit une voix. Une créature humaine venait de surgir, à peine vêtue d'une vague chemise et d'une jupe 20 fois trouée. C'était encore une enfant. Ses yeux luisaient comme des yeux de lynx. Il darda la lumière sur un visage bistre, sur une crinière fauve qui ruisselait autour des épaules grêles. « Vous êtes français ? » dit-elle. « Je le sais bien. »« Oui, je suis français. » Elle le regarda avec supplication et elle reprit. « Il y a près d'un an que je vis dans les bois. Jamais aucun d'entre eux ne m'a atteinte. » Une grande pitié nuancée d'admiration emplit le cœur de Philippe. Il demanda avec douceur « Et vos parents ?»«
Je n'ai pas de parents, » soupira-t-elle. « Je suis une enfant trouvée. »«
Pauvre petite !» Elle l'intéressait davantage. Cette aventure avait des affinités mystérieuses avec sa propre aventure. Les origines de l'enfant se perdaient dans la nuit des êtres comme la sienne se perdait dans la nuit des énergies. Il demanda « N'auriez-vous pas peur de m'accompagner ?»«
Oh !» exclama-t-elle les yeux brillants. « Ne me laissez plus seul !»
Alors il l'installa dans l'appareil et l'enveloppa d'une couverture. Puis, ayant tout vérifié, il prit place à son tour et démarra. « Surtout ne bougez pas !» L'appareil roula et s'enleva. Il franchit la cime des arbres. L'enfant fut à peine étonnée et tout de suite elle s'accoutuma. La nuit était profonde. Un brouillard s'abattait sur les forêts, les collines et la plaine. L'aéroplane devenait invisible. Quelques heures plus tard, Philippe atterrissait bien au-delà des lignes ennemies. Philippe plaça la petite chez une vieille institutrice. Il allait la voir chaque fois, chaque jour, lorsqu'il ne voyageait point. Elle fut d'abord craintive, brusque et sauvage. Elle avait des mouvements de bête captive. Elle ne pouvait se déshabituer d'être aux écoutes et même de fuir au moindre bruit suspect. Il aimait ce visage d'Oréade, ses longs yeux scintillants et cette structure flexible de forestière. L'enfant lui témoignait une affection farouche et jalouse. La nuit où il l'avait enlevée dans le ciel devait demeurer la nuit enchantée de sa vie. Lui aussi s'attachait à elle. Il lui plaisait de l'avoir trouvée dans l'inconnu parmi les ennemis innombrables. Le lien qui l'unissait à elle devenait toujours plus fort et lui donnait plus de courage. Un jour, il la trouva dans le jardin de l'institutrice. On approchait déjà de l'équinoxe. Une brise orageuse soufflait sur la mer. Les oiseaux des tempêtes tourbillonnaient avec des clameurs rauques. Les apodes aux ailes tranchantes quittaient les altitudes et décrivaient sur la falaise de longs vols fiévreux. Ils marchaient avec la petite Jeanne sous les vieux pommiers. Des araignées, pareilles à de petits crabes, consolidaient leurs toiles. Elle allait, furtive et rythmique. Que deviendrait-elle? Quelle voix seraient les siennes dans la vie incompréhensible? Il se la demandait avec inquiétude. Il voulait qu'elle fût heureuse. Des émotions obscures se levaient, et qu'il préférait obscures, par la crainte de tous ces possibles qui deviennent si facilement impossibles. À la fin, il demanda « Jeanne, es-tu heureuse ?» Elle tourna vers lui, ses yeux ensemble, clairs et sombres. Elle répondit à voix basse « Je suis heureuse quand vous êtes là. » Il tressaillit. Il perçut l'avenir de l'enfant. Il vit poindre l'adolescente. Et il murmura « Ce ne sera pas toujours ainsi. » Il y eut de l'indignation et de la peur sur le visage bistre. Les yeux devinrent tout noirs, tellement la prunelle s'était dilatée. Puis elle eut un petit rire rauque. « Oh, c'est que je serai morte !»« Morte ?» Il sentit la force de l'accent et sa profondeur. Il n'eut aucun doute. À l'heure fatale, l'amour qui naîtrait dans cet enfant, comme le pollen dans la fleur, serait sans retour. Oh, ce serait un amour jaloux. Ils marchèrent encore quelque temps, côte à côte. Le vent emportait les vapeurs de la mer. Un nimbe noir montait et croissait, ourlé de phosphorescence. Un songe développait sur une péripétie confuse. Philippe entrevit les méandres d'un destin où il n'y aurait plus de déchéance ni de sacrifice, où des jours purs naîtraient les uns des autres, comme les anémones voyageuses dans la montagne. Des gouttes chaudes tombaient sur les pommes. Quelque chose d'intense et de délicieux sourdait des herbes automnales. Mais subitement une image rythmique se profila sur les falaises. La douleur recommença de battre dans la poitrine de Philippe. Il revit la fenêtre ouverte sur le paysage de vieille France, tandis que les vers chantaient implacablement dans sa mémoire. La branche au soleil se dort et se penche pour l'abriter, ses boutons qui vont éclore sur l'oiseau qui va chanter. Il prit le bras de la petite et l'amena vers la maison. Chapitre 13. Pierre souffrait plus que Philippe. Le plus étrange des remords l'accompagnait jusque dans la profondeur du sommeil et souvent d'un choc brusque l'éveillait. Alors, dans l'ombre, il subissait un cauchemar inconscient qui l'emplissait d'horreur et de dégoût. Tandis que Philippe se trempait dans la vie agissante, Pierre se recroquevillait dans le rêve. Il rôdait comme un Hamlet à travers le château immense. Il se perdait par les caves sinistres où les prisonniers avaient souffert la faim, la torture et le froid. Les œuvres de Madame de Givreuse l'occupaient médiocrement. Elle y déployait une activité qui rendit presque inutile l'intervention du jeune homme. Il se réfugiait dans la vieille bibliothèque, où des livres étranges sollicitaient sa curiosité, où, perdu dans les falaises, il vivait avec les oiseaux sauvages de la mer et avec des bêtes énigmatiques qui arrivaient du fond de l'étendue comme si elles arrivaient du fond des âges. Tel un glas, une même pensée sonnait dans sa tête. Il voulait sans cesse rappeler Philippe. Quand ils se rencontraient, Philippe s'opposait à ce rappel et montrait que l'épreuve était nécessaire. Dans ces discussions se révélaient les premières différences nées de la séparation. Il y avait plus de précision chez Philippe, plus de fièvre et de subtilité chez Pierre. Il commençait à pressentir la dissolution progressive de leur unité. Valentine n'était pas revenue au château. Elle faisait chaque semaine une longue visite à Madame de Givreuse. Pierre se montrait furtivement pendant ses entrevues. Il prononçait de rares paroles et les jeunes gens osaient à peine se regarder. Après le départ de Valentine, il tombait dans une désolation noire, sans savoir si c'était du regret ou le sentiment de son impuissance. Il passait des heures à analyser son âme. Plus il l'analysait, plus elle lui semblait indéchiffrable. Il se perdait en lui-même comme dans une forêt vierge. Un jour, il sortit du château et se dirigea vers la lande. Il arriva en vue du sanatorium du docteur Savard, dont une partie était maintenant consacrée aux blessés. C'était un de ces jours où l'air est saturé de toute l'aventure de la vie. Un orage sourd, qui ne devait pas éclater, rendait l'air délicieux et peu respirable. Les pollens surchargeaient l'atmosphère. Il y avait de courtes palpitations, des commencements de brise qui avortaient comme la foudre avortait dans les nuages. Pierre s'arrêta près de la haute muraille qui avait caché et abrité tant de misère. Le silence était entrecoupé du frisson de la fougère et de la bruyère qui ressemblait aux frisolis de jupes lointaines. Il vit une forme féminine qui se glissait le long de l'enceinte avec des mouvements incoordonnés et sauvages. C'était sûrement une folle. Elle aperçut Pierre, elle s'arrêta, repliée, contractée. Elle avait de longs yeux fauves effarés, d'une pâleur excessive. Prenant soudain son parti, elle s'élança vers Pierre et le saisit aux épaules. « Silence !» chuchota-t-elle. « Pas un cri !» Les grenouilles géantes sont arrivées. Elles remplissent la mer. Elles sont plus terribles que des crocodiles. Oh, oh! Un feu clair parut ruisseler des larges pupilles. La bouche était entr'ouverte. C'était la même bouche que Valentine, une bouche écarlate où luisaient de fines coquilles de nacre. Est-ce toi? Fit-elle. M'aimes-tu encore? C'est l'heure, chérie. Elle sonne là-bas. L'heure noire et rouge. La vague monte. Les grenouilles géantes vont remplir les falaises jusqu'aux étoiles. Écoute. Oh, comme elles grondent. Elles ont fait fuir les matelots, tu sais, dans les sables torrides. Prends-moi sur ton cœur. Sauve-moi. Deux gardiens venaient d'apparaître au tournant de la muraille. Ils avançaient lourds et rapides. La folle poussa un grand cri. « Les voilà, vite! Anda! Elles vont nous dévorer !» Son étreinte devint convulsive. Sa bouche charmante grelottait, un gémissement continu montait de sa gorge et brusquement, elle prit sa course. Alors, voyant que les gardiens allaient la rattraper, Pierre ferma les yeux, saisi d'une tristesse abominable. Quand il les rouvrit, les gardiens tenaient la fugitive. Elle n'avait pas poussé un cri, elle les suivait, muette et sombre. Mais quand elle repassa près de Pierre, elle cria d'une voix déchirante « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'enfuit dans la lande. Il revoyait sans répit cette face blanche, ses yeux trop clairs, surtout cette bouche si fine et si étincelante. D'indicibles pressentiments le parcouraient comme des courants fanatiques. Il allait à grands pas. Le soir était venu quand il se vit dans une ville qui était Avranches. L'église de Saint-Saturnin montait dans la nuit. Une cloche finissait de sonner. Une grosse étoile tremblotait. Il entra dans l'église. Des femmes étaient agenouillées et aussi quelques hommes. Il les considéra dans la lueur jaune et débile. Il fut bizarrement surpris de ne pas voir Valentine et Mademoiselle Faubert. Il espéra pendant quelques minutes qu'elles allaient venir, puis, déçu, il sortit. Deux femmes passaient dans la pénombre qu'il reconnut à l'allure. Lui, qui avait été surpris de ne pas les trouver dans le temple, fut encore plus surpris de les voir là. Le visage de Valentine se tourna vers lui et l'avait frissonné. Machinalement, il se mit à marcher auprès de Mademoiselle Faubert. Une force l'entraînait qui arrêtait le jeu de la pensée. Son odorat exacerbé percevait un subtil parfum d'iris et d'ambre. Il ne songeait pas à Philippe. Il semblait que son passé et son avenir lui appartinssent comme aux autres êtres. Il entendait les propos de Madeleine et répondait mécaniquement. Après peu de temps, ils se trouvèrent devant la vieille maison. La lumière de la lune venait de biais et enveloppait Valentine d'une lueur de féerie. Le visage brillait comme la fleur du Nelombo sur un étang crépusculaire. La robe tombait en ondes rythmiques et la bouche s'entrouvrait innocente comme une bouche d'enfant. Alors l'amour enchaîné se répandit en pierre comme un printemps. Ce fut une éclosion de tout l'être. Il ne comprenait plus, ou plutôt, il ne percevait plus ses scrupules. La voix impérieuse des générations dominait la faible voix psychique. Cette scène eut de profonds dehors échos dans la conscience de Pierre. Elle contribua à accroître sa personnalité. Pour la première fois, il sentit la possibilité d'être jaloux de Philippe. C'était bien incertain encore et intermittent, mais enfin, il y eut des minutes où il songeait à tirer parti de la renonciation de l'autre. Simultanément, son amour pour Valentine subit une métamorphose, il devint plus fébrile et plus soupçonneux. Jusqu'alors, il avait connu une sécurité assez singulière. Il ne songeait pas à des rivaux extérieurs. Le débat se localisait entre lui et Philippe. Peut-être parce qu'il avait ressenti une première apparence de jalousie, il commença de craindre un revirement de Valentine. La séparation, qui naguère était une tristesse sans forme, devint une source de crainte précise et rongeuse. Cela aussi tendit à créer une notion plus aiguë de son nouveau moi. Dès lors, il attendit avec impatience les visites de la jeune fille. Il assistait plus longuement aux entrevues et il ne parvenait plus à dissimuler son agitation. Valentine était moins timide. La métamorphose de Pierre rassurait son instinct. Elle trouvait qu'il ressemblait moins à Philippe et l'espoir de leur découvrir des différences sensibles rendait du charme à l'existence. Un jeudi, elle arriva à l'improviste. C'était le jour que Philippe avait choisi pour venir au château. La jeune fille le savait. Attirée par un besoin mal défini de comparer les deux hommes, elle se demandait avec angoisse si la transformation de Pierre n'était pas un mirage créé par son imagination. Elle trouva Madame de Givreuse seule. La comtesse revenait de son orphelinat militaire. Assise sur la terrasse, à l'ombre d'un figuier aux grandes feuilles digitales, elle goûtait la paix de la minute. Comme elle avait reçu le don de la quiétude, elle savait oublier pendant le repos les tracas de l'action. Et du passé, retenant les beaux jours, elle rejetait les autres dans les oubliettes de l'inconscient. Ce jour-là, elle était particulièrement contente. Elle ne savait pas pourquoi. En réalité, elle aimait la double présence de Pierre et de Philippe, comme au fond, elle aimait presque autant l'un que l'autre. « Bonjour, petite mésange, » fit-elle. « Nous avons un visiteur. » Elle ne remarqua pas le sillement de Valentine. « Un visiteur que tu n'as pas rencontré depuis longtemps. » Une femme de chambre, coiffée de l'antique bigoudin, où Soldi croyait lire la cosmogonie mystérieuse des hommes qui élevèrent des cromlechs et bâtirent les premières pyramides, vint dresser le couvert pour le thé. Il y avait des muffins. Madame de Givreuse les chérissait. Pierre et Philippe parurent au détour d'un quinconce de Rouvre. Leur ressemblance parut d'abord aussi désespérante à Valentine. Mais quand ils furent proches, la jeune fille sourit. Le teint de Philippe était plus hâlé que celui de Pierre. Quelque chose de plus résolu éclatait dans les méplats de son visage. Les yeux apparaissaient plus clairs et plus hardis. Il y avait de la fièvre dans les prunelles de Pierre. Sa bouche était indécise et sensitive. Tout son être évoluait vers le rêve et la vie intérieure. Tous deux ressemblaient moins que naguère au jeune homme qui était parti à l'appel des armes, en sorte qu'elle ne savait point lequel s'accordait le mieux avec ses souvenirs. Elle ne se demanda pas qui elle allait préférer. Son cœur demeurait plein d'incertitude, mais elle ne doutait pas qu'une préférence fût possible, et surtout elle sentait décroître cette frayeur mystique qui l'avait tant fait souffrir. Peu de temps après, les revit de nouveau ensemble chez Augustin de Rouchter, et cette fois par hasard. Est-ce parce qu'elle avait beaucoup et passionnément médité dans l'intervalle? Elle trouva que la dissemblance s'était encore accentuée. Ils allèrent tout droit au bord d'un petit étang où les saules de Babylone étalaient leurs draperies mélancoliques. Madame de Givron et Rougeterre marchaient en avant. On entendait la voix de cloche du comte qui faisait bondir les grenouilles. Tous trois aimaient ce coin où ils avaient jadis passé des minutes délicates. « Vous souvenez-vous ? » demanda soudain Valentine, et elle observait les jeunes hommes. « De l'écureuil qui nous épiait ici à la fin de l'automne ?» Les trois premiers mots, vous souvenez-vous, avaient mis Philippe en garde. Sa physionomie ne décela rien, tandis que Pierre répondait « Bon, nous ne l'avons plus revu, il avait disparu avant la guerre. » Elle eut un petit rire qui marquait sa joie intérieure. Son regard rencontra celui de Pierre. Elle y eut une ardente ardeur douloureuse et se dit tout bas « Oh, c'est lui qui souffrirait le plus !» De ce jour, elle pensa plus souvent à Pierre. Elle exagéra tout ce qui lui en était pas pareil en Philippe. Elle recréa une nouvelle image qui se rattachait aux images d'antan. Pourtant, Philippe gardait un pouvoir mystérieux. Au moment où elle croyait en être détachée, il apparaissait comme une évocation et comme un reproche. Un mois passa qui refaisait les cœurs et les plantes. Valentine se retrouva auprès du même étang avec Pierre et Rougeterre. Un domestique vint apporter une carte de visite. Les jeunes gens se trouvèrent seuls. Leurs âmes étaient indécises comme leurs paroles, mais Pierre savait qu'il revenait peu à peu un être normal pour la jeune fille. Elle n'avait plus que cet embarras charmant des êtres timides. Par intervalles, il se tournait vers elle. Jamais elle n'avait été si nombreuse. Toute la grâce des créatures se concentrait en elle. Le jeu des ramures et des nuées, l'allure des oiseaux sylvestres, les corolles argentées des sagittaires, les reflets de l'eau, se retrouvaient transposés et plus enivrants. Elle se pencha pour cueillir une fleur rose qui poussait dans un havre. La terre friable céda. Il eut à peine le temps de la saisir et de l'enlever. Elle avait poussé un petit cri d'effroi. Elle demeura contre la poitrine de Givreuse. Il ne s'attendait pas à cette sensation violente. Il devint pâle comme s'il avait spamé. Son cœur grondait et son visage s'ensevit un moment dans la chevelure odorante. « Merci !» fit-elle d'une voix éteinte en essayant de sourire. Ce qu'il voyait dans les beaux yeux encore tremblants le séparait de toute chose. Il oubliait complètement Philippe. Il s'en souvint lorsqu'elle fut partie. Jusqu'à la nuit, il examina sa conscience. Elle était ardente et affligée. Des remords le harcelaient et qui ne parvenaient pas à lui faire oublier la joie cruelle de l'étreinte. « Mais qu'ai-je fait pourtant ?» se dit-il. « Mon geste était nécessaire. » « Suis-je maître de mes sensations ?» Mais il avait prolongé ses sensations. Il prit la résolution de parler à Philippe. Il s'était arrêté dans ce ravin où coule une maigre rivière qui se perd dans l'océan. Des pierres lourdes s'élevaient, un champ d'ajoncs avait brûlé, laissant un vide noir et funèbre. « Es-tu malheureux ?» demanda soudain Pierre. « Je ne sais pas, je vis.
Ma vie n'est point laide, elle s'adapte à la peine des hommes. Ils foulaient les sauges, les achillées, les ombellifères, les mille pertuis perforés et de petits batraciens sautelaient par intermittence. Pierre éprouvait que sa confidence était difficile. Cette difficulté même lui montrait quel changement s'était produit. Naguère encore, il parlait à Philippe comme il parlait à lui-même. Et il finit par dire « Ne désires-tu pas abréger ton épreuve ?»« Non, non, fit vivement l'hôte, je sais qu'elle est absolument fatale. Mais je suis privilégié, il le faut. Mais, reprit Pierre avec confusion, si pourtant Valentine me préférait. » Philippe le regarda fixement, étonné de l'intonation. « Nous n'avons pas le droit de lutter contre les préférences de Valentine. »« Oui, sans doute, mais sans cependant que ce serait la suite de circonstances que nous avons voulu. »« Mais nous devions les vouloir, puisqu'il nous faut être deux. » Pour Valentine surtout, la séparation s'imposait. Il eût été coupable que nous fussions disputés cette généreuse créature. Wow, quoi qu'il arrive, je ne me plaindrai point. Mais si tu es sacrifié, mais sacrifié par qui? Ce n'est ni toi ni moi qui avons décidé que je partirais, c'est le sort. Nous aurions pu renoncer l'un et l'autre. Pourquoi? Ça aurait été deux déchirements au lieu d'un seul, et puis peut-être une grande douleur, un amer souvenir pour elle. Si elle te préfère, je m'inclinerai sans révolte. Mais tu souffriras. Sans doute, j'ai appris. Mais j'apprends chaque jour cette souffrance-là. Pierre entendait, sous les paroles, le sourd frémissement d'une âme. Il y avait du stoïcisme dans l'attitude de Philippe. Pierre eut mal, du mal de son compagnon. Et toutefois, il sentait que maintenant, une vie secrète commençait à les séparer. À deux reprises, il voulut faire sa confidence. Il ne le put. Chaque fois, un instinct équivoque l'arrêtait. Philippe devinait confusément cette hésitation. Elle le pressait, mais il était résolu à ne rien faire pour la vaincre. « Quoi que tu fasses, dit-il avec une brusque tendresse, mais j'aurai aucun reproche à te faire. » Quand j'ai quitté le château, nous étions exactement l'un comme l'autre. C'est la séparation qui a créé une différence, sinon de fond au moins de surface. Mais ce que tu feras, je l'aurais fait. Mais ne crois pas que je lui ai parlé d'amour, fit Pierre d'une voix plaintive. Mais ne te crois pas contraint de le faire. Ils se regardèrent. Leur unité reparut. Plus forte que toutes les passions et toutes les tendresses. Mais Pierre ne dit pas ce qu'il avait résolu de dire. Philippe ressentait une grande lassitude, une courbature morale, et il n'avait d'autre consolation que la petite fille recueillie dans le bois inconnu. « Ah, j'oubliais, reprit Pierre avec insouciance, de te montrer ceci que j'ai reçu ce matin. » Il avait pris un billet dans son portefeuille et le tendait à Philippe. Philippe lut. « Cher ami, je vais bientôt partir pour un très long voyage. Peut-être viendrez-vous me dire adieu au Glaïeul où je serai pendant quelques jours pour mes amis. Le meilleur souvenir de Thérèse de Lysange. » Ce billet intéressa Philippe. « Il est naturellement impossible que j'y aille, remarqua Pierre. « Alors j'irai, dit Philippe. » Pierre le regarda avec ébahissement. « Sous ton nouveau nom ?»« Sans doute, et de ta part ?»« Mais elle croira que c'est... »« Mais elle croira ce que je lui dirai. »« Je pressens que déjà elle doit savoir quelque chose. »« Elle a toujours su se renseigner. » Pierre eut le geste qui exprime l'indifférence. Philippe se rendit au Glaïeul le lendemain. C'était un petit manoir tout enveloppé de jardins. Une servante vague, aux yeux dormassants, l'introduisit dans un salon aux boiseries hautes, aux vieux meubles normands, pleins de force. Après un moment, une jeune femme surgit,
fascinante et complexe. Sous une fine couche de poudre, on devinait un teint de catalane ou d'hispano-américaine. Le plus beau sang nourrissait des lèvres ardentes, écarlates au centre. Les yeux tendres et pourtant ironiques, avec une pointe d'insolence, noirs comme la houille, avaient des reflets de topaze. On devinait le charme du corps rien qu'aux flexions qui métamorphosaient continuellement les lignes. Elle fixa sur Philippe un regard où passa une câlinerie soudaine. « Pierre ?»« Ah non pas !» dit-il en souriant et un peu pâle. « Je ne suis pas Pierre de Givreuse !» Une stupeur immobilisa le visage de la jeune femme. « Oui, on me l'avait dit !» fit-elle en joignant les mains. « Je ne voulais pas le croire !»« Descendre du passé !» Cet amour âpre, cet amour de fournaise, qui avait incendié pendant une année la vie de Givreuse, jeta une violente étincelle. Mais autre chose montait, qui était nouveau, et qui n'aurait pas été possible dans une vie normale. Elle le considérait avec une curiosité dévorante. Oh, mais je n'ai rien vu d'aussi fantastique, reprit-elle. Et la voix encore, qui est plus fidèle que le visage et l'accent, mais vous ne vous jouez pas de moi? Mais non, je suis Philippe Frémeuse, madame. Il faut bien vous croire, soupira-t-elle avec un petit rire ambigu. Mais ce n'est pas vous que... Elle hésitait. Oui, ce n'est pas moi que vous attendiez, fit Philippe. Bon, c'est que Pierre ne peut pas venir. Elle prit un air froid, dur et sec. Mais je ne comprends pas. Il s'attendait à cela. Encore qu'il eût longtemps réfléchi, il n'avait rien trouvé pour excuser sa visite. Il fut à une distance infranchissable de cette femme qu'il avait appelée et qui ne le connaissait pas. L'inquiétude et l'excitation alternaient dans son être, et l'aventure s'élevait en lui comme un vol d'oiseau voyageur. « Oh, Pierre m'a prié de l'excuser, il regrette !» Il bégayait, il pataugeait. Elle recommençait à sourire, ironique et indéchiffrable. Elle voulait savoir où cette rencontre les mènerait. C'était un mélange inextricable de curiosité, de souvenirs violents, d'impressions naissantes. En somme, ce jeune homme, si semblable à Pierre, la ramenait à un passé auquel elle eût aimé revenir une fois encore, et mêlait à ce passé la possibilité, sinon la promesse, d'un renouveau. « C'est bien, » interrompit-elle. « Si Pierre de Givreuse a des raisons pour ne pas me rendre visite, ces raisons ne m'intéressent point. Et vous, monsieur, quoique votre présence soit bien insolite, je consens à vous excuser, mais tout ça ne fait pas que je vous connaisse. Combien tout serait facile s'il pouvait prendre sa personnalité véritable. Il se dépitait, mais en même temps, l'aventure lui semblait aussi plus exaltante. Elle comportait ce recommencement dont l'absence éteint tous les goûts et toutes les passions. La Thérèse assise dans ce lourd fauteuil gothique n'était plus la Thérèse dont un jour il s'était séparé parce que la coupe mystérieuse était épuisée. « Essayons de causer, » persifla-t-elle. « Ça va pas être commode. Voyons, prenons les chevaux au hasard. Avez-vous combattu ?»« Oh oui, madame. »« Vous avez été blessée ?»« Oui. »« Et que faites-vous ?»« Oh, je m'emploie dans une fabrique d'aéroplanes, sous le patronage de Monsieur de Rougeter. »« Bon patronage ? C'est un homme qu'on peut estimer. Oh, il y a si peu de gens estimables. » Elle eut un moment de lassitude. « J'en connais tout au plus 6 ou 7 qui existent. Le reste, oh, quelle fumée !» Son geste dédaigna une multitude invisible. Elle eut de nouveau son rire tranchant et ambigu. « Et vous-même, vous estimez-vous ? » « Oh, je ne sais pas, je me cherche. » C'est un commencement.
Ceux qui se cherchent forment presque une élite. Ceux du gros tas ne pensent jamais à se chercher. On dirait qu'ils sentent d'avance que ce serait inutile. Elle se tut. Elle demeura une demi-minute rêveuse. Sa longue manche de velours gris traînait sur le bras dur du fauteuil. Elle avait renversé la tête en arrière, ce qui mettait en valeur un cou ravissant de forme et d'éclat. Son immense chevelure luisait comme les étangs sous les étoiles. De chaque ondulation émanait cette volupté primitive et très raffinée qui émane des beaux cheveux. Il l'épiait sournoisement. Il s'abandonnait à un trouble dolent et enivré. Tout en lui voulait oublier sa vie amère. Un parfum d'herbe fauchée flottait autour de la femme. « Nous n'avons rien dit, mais nous avons causé, » soupira-t-elle. « La difficulté est jouée. Je me disais que vous aviez dû combattre bravement. »«
Oh, est-ce combattre, on ne sait plus. Tout vient du fond de l'invisible. On est dans une immense chambre de torture. Ce n'est pas de batailler qui est l'héroïsme. C'est de souffrir avec patience.
Ah oui, cela doit être ainsi, soupira-t-elle. Nos pauvres soldats de France. Elle était attendrie. Derrière l'attendrissement, la femme veillait, et les vœux de la femme. De tout temps, la guerre leur a donné plus de puissance. Vous avez beaucoup souffert.
« Je compte pour rien quelques semaines de souffrance, » dit-il avec force. « Et je n'ai pas renoncé à combattre. »«
Bravo !» s'exclama-t-elle. Une pause.
Bon, il pensa que la visite avait assez duré et se leva. Puis, timide mais affectant une timidité plus grande qu'il ne ressentait,
« Ne me permettrez-vous pas de revenir » supplia-t-il. « Oh, je ne vous l'aurais pas permis tout à l'heure. Je suis chez moi presque tous les jours, l'après-midi, à 4 heures, pendant tout ce mois. Ensuite, hélas, il faut que je parte pour le Chili, où j'ai de bien grosses affaires à arranger. Ma mère était chilienne. »
Elle lui tendit la main. C'était une petite main très vivante qui se rétracta légèrement dans la main du jeune homme.